VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les Libériens se rendent aux urnes demain mardi pour choisir leur nouveau président et leurs députés. Le scrutin doit notamment permettre d'élire un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf, élue une première fois en 2005 et qui ne peut plus se représenter après deux mandats successifs de 6 ans chacun. 2,1 millions de votants au total sont appelés aux urnes. Au Nigeria, plus de 2300 membres présumés de Boko Haram détenus dans des camps militaires comparaissent devant la justice à partir d'aujourd'hui. Ces procès vont se tenir dans le plus grand secret et soulèvent déjà le plus grand scepticisme sur la transparence du système judiciaire au Nigeria. Aloïs Bigirimana.
La justice va d'abord juger quelques 1670 personnes détenues dans un centre militaire d'Okaïnji. Les dossiers de 651 prévenus du camp Giwa à Maïdougouri, capitale du Borno et épicentre du conflit, suivront de près. La plupart sont détenus depuis des années dans le secret, sans avoir vu ni avocat ni juge. D'après Matthew Page, ancien spécialiste du Nigeria au département d'État américain, il s'agit du premier procès significatif de suspects de Boko Haram. Les chiffres officiels indiquent que seules 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec l'insurrection djihadiste. Les audiences auront lieu à huis clos, au sein même des centres de détention militaire. Un avocat nigérien a estimé que cette mise à écart des médias envoie un mauvais signal d'une justice non rendue ou de compromission. Amnesty International avait alerté en juin 2015 sur les conditions de détention horribles des centres militaires. Cette ONG disait que 7000 personnes seraient mortes de faim, d'étouffement ou de torture depuis 2011.
Au Mali, certaines organisations de la société civile et des associations de jeunes ne sont pas d'accord avec les propos du secrétaire général des Nations Unies, selon lesquels presque aucun progrès n'a été réalisé dans l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Des activités ont été organisées donc dans le pays pour réfuter ces conclusions de l'ONU, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
La publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies a suscité beaucoup de débats au Mali, car le pays entre dans une période électorale intense, s'achevant avec une présidentielle en 2018. Mamadou Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Malgré ces développements positifs, nous devrons être conscients que les échéances de 2018 s'approchent à grands pas et que les défis restent énormes. Toutes les parties sont appelées à redoubler d'efforts pour consolider la confiance entre elles.
Le chef de la diplomatie malienne trouve qu'il y a eu plein d'actions dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali.
Grand fut l'étonnement du gouvernement du Mali face à cette affirmation qui, à première vue, donnait l'impression d'un immobilisme généralisé dans la mise en œuvre de l'accord. Malgré les efforts consentis par le Mali et par la communauté internationale, le gouvernement du Mali reconnaît certes les difficultés qui ont jalonné le processus de paix, mais estime que des progrès remarquables ont également été enregistrés dans la mise en œuvre de cet accord issu du processus d'Alger.
Certaines associations pensent que le rapport des Nations Unies sur le Mali ne reflète pas la réalité du terrain.
Je me nomme Michel Koulibaly Babou, professeur de théorie du développement. Nous savons réellement souvent que les choses qui sont derrière ces accusations-là, parce qu'il n'y a pas de critères objectifs, on peut se poser la question, quels sont les critères sérieux qu'ils ont utilisés pour montrer réellement que le gouvernement malien n'a aucun fait pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord, ce qui est très grave comme affirmation.
Les organisations de la société civile sont étonnées par les rapports de l'ONU qui, selon eux, accusent le Mali en oubliant les autres acteurs du processus.
Je m'appelle Dr Lamine Sandi, je suis enseignant-chercheur.
Vous ne pouvez pas prétendre nous accompagner et ne pas observer la neutralité. Le Mali n'est que pratiquement le maillon faible de tout le processus. Donc l'État n'a pas les moins de pouvoir faire progresser ce processus. Pour qu'il y ait cantonnement, pour qu'il y ait désarmement, il faut que les forces internationales soient présentes, il faut qu'elles observent toute la neutralité requise. Okay? Il faut aussi reconnaître que l'État malien aussi est un grand acteur dans ce processus, mais l'État malien est ignoré.
Certains jeunes qui étaient dans les rues de Bamako contre le projet de révision constitutionnelle trouvent que c'est le sursis de ce projet qui est à la base du mécontentement des Nations Unies.
Kekoro Keta, je suis un jeune diplômé sans emploi. Si c'est pour s'appuyer sur le référendum que l'ONU dit qu'il n'y a eu aucune avancée par rapport à la situation au Mali. Moi, je pense qu'ils doivent tenir compte des réalités socio-culturelles du Mali. Parce que voter, faire le référendum sans tenir compte de ces réalités peuvent nous amener dans l'avenir à d'autres conflits.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un casque bleu a été tué aujourd'hui dans l'attaque d'une base des Nations Unies dans l'est de la République démocratique du Congo par le groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées ADF, a indiqué la mission de l'ONU en RDC. 12 casques bleus ont également été blessés, a précisé une porte-parole de la MONUSCO au sujet de cette attaque survenue dans le territoire de Beni, l'une des divisions administratives du Nord Kivu, où des combats à l'arme lourde ont opposé dimanche des membres des ADF à l'armée congolaise. La base de Mamoudiouma a été attaquée à 5h30 heure locale entre Kamango et Mbo, a précisé la MONUSCO. Une réunion de crise est prévue au siège de la MONUSCO dans la capitale congolaise, Kinshasa. La force de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, amène, elle, depuis samedi, une opération militaire de grande envergure à Bokaranga, une ville du nord-ouest du pays, pour en chasser un groupe armé local baptisé 3R. Cette opération fait suite aux affrontements entre des éléments du groupe baptisé 3R pour retour, réclamation et réhabilitation et un groupe d'anti-Balaka qui avait secoué Bokaranga les 22 et 23 septembre. Selon des sources militaires et humanitaires, au moins 2 personnes avaient été tuées et quelques 23 000 personnes avaient fui la ville et les localités alentours. Apparu fin 2015 dans le nord-ouest de la Centrafrique, le groupe 3R prétend protéger la communauté peul contre les attaques des milices anti-Balaka. Une humanitaire suisse a été enlevée au Darfour, région de l'ouest du Soudan, déchirée par la guerre, ont annoncé dimanche les autorités suisses et une responsable de l'ONU. Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, la Suissesse travaillait pour une ONG suisse qui aide les enfants. Plusieurs humanitaires soudanais et étrangers ont été enlevés au Darfour ces dernières années, mais il s'agit du premier enlèvement depuis que l'ONU a commencé en juin à réduire ses casques bleus dans cette grande région en proie à un conflit meurtrier depuis des années.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Sept minutes à Washington, des centaines de milliers d'Espagnols de Catalogne, d'ailleurs, sont descendus hier dans la rue à Barcelone. Ils ont manifesté contre l'indépendance de la région. Le référendum d'autodétermination interdit, organisé le 1er octobre, a déclenché une crise politique sans précédent en Espagne depuis 40 ans. Eric Manirakiza.
Du jamais vu en Espagne depuis la fin du régime de Franco en 1975. Vive la Catalogne, vive l'Espagne, scandait la foule qui brandissait des milliers de drapeaux espagnols, catalans ou européens, symbole d'un patriotisme décomplexé qui ne fait cependant pas l'unanimité. D'après une madrilène de 30 ans arborant un drapeau espagnol noué autour de la taille, l'indépendantisme catalan a réveillé la ferveur patriotique espagnole qui ne se limite pas seulement à la fierté d'être espagnol, mais à le montrer. De nombreux manifestants venaient d'autres régions d'Espagne. Le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa a affirmé qu'aucune conjuration indépendantiste ne détruira la démocratie espagnole. Dans un tweet, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a apporté son soutien aux manifestants. Il a brandi la menace d'une suspension de l'autonomie de la Catalogne en vertu de l'article 155 de la Constitution. Cette crise effraie les milieux économiques. Une quinzaine de grandes entreprises catalanes ont déjà transféré leur siège social hors de la région. Le leader catalan Carles Puigdemont a sollicité une médiation internationale, mais Mariano Rajoy refuse de dialoguer tant que les séparatistes n'auront pas retiré leur menace de rupture.
L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a souligné aujourd'hui l'importance du développement du secteur rural à travers le monde pour atteindre l'objectif fixé par la communauté internationale d'éliminer la faim et la pauvreté d'ici 2030. La forte demande alimentaire engendrée par la croissance démographique, l'urbanisation et la hausse des revenus est cependant confrontée au changement climatique et à des contraintes liées aux ressources naturelles. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes, et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.